Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, non-avares d'avatar, altruistes, alter, égoïstes, furieux de fourrure et piqués de pixels, bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde curieuse et curatorale sur Fréquence 7 et vous avez bien raison. Aujourd'hui, on pénètre dans le château d'Aubenas, un château transfiguré, transfigurine même, qui pour les besoins de l'une de ses nouvelles expositions visibles à partir du 16 novembre, se transforme en demeure d'un mystérieux habitant. Telle Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, puisque j'ai pas encore pu voir cette expo. Je dois aussi, moi, faire preuve d'imagination. Telle Alice qui ouvre telle ou telle porte et se retrouve dans des univers baroques, peuplés de personnages foutraques, l'hôte de l'expo sera amené à visiter différents mondes, peuplés d'avatars manga, de chimères magiques et de personnages de contes populaires avec une petite musique derrière, comme c'est le cas actuellement. Mais d'où vient-elle cette musique? Je ne sais pas. Un portable peut-être. Mais oui! Et quoi? De nouvelles émissions vont-elles émerger, de nouvelles émotions, pardon, vont-elles émerger de cette expérience, comme le laisse suggérer le titre de l'exposition « J'ai pleuré devant la fin d'un manga ». Qu'est-ce qui résulte de cette porosité entre le monde de l'enfance et celui des adultes, entre les mondes imaginaires et le monde réel? Mes invités sont-ils bien réels ou sont-ils les avatars de peluches numériques? Vous ne comprenez rien à tout ceci, mais vous voulez quand même avoir quelques réponses, alors restez, puisque juste après l'agenda, nous parlerons de l'exposition « J'ai pleuré devant la fin d'un manga » avec ses deux créateurs, commissaires, comme on dit, Félicien Grandénon, bonjour Félicien.
Enchanté, enchanté Sophie.
Et Alexis Loisel Montembeau, bonjour.
Bonjour Sophie.
Bon, Félicien et Alexis, ça sera très bien. Et puis peut-être sous le regard bienveillant, peut-être la voix de Ivana, qui s'est absentée un court instant, Ivana Mouton, qui est chargée de com du château Centre d'Art Contemporain à Aubenas. Mais on passe tout de suite à l'agenda. Monde incertain, monde qui glisse, monde qui se reconfigure, c'est aussi le programme de l'agenda. Ce soir, à Priva, dans le cadre de la 25e édition du festival Images et Paroles d'Afrique, Christian Daudel, qui est géographe, donnera une conférence sur la géopolitique de l'Afrique au XXe siècle. Ce que le continent africain était dans nos perceptions historiques et ce qu'il est devenu aujourd'hui avec la multiplication de problèmes nouveaux, réchauffement climatique, désordre démographique, ingérence russe et chinoise, dictature locale, tensions intra-africaines et maintenant... Ah bon, on l'a refait? T'es prêt Sylvain? Non, t'es pas prêt? Bon, c'est pas grave. Mais ça... Ah. Est-ce qu'une blague qu'on redit une deuxième fois équivaut toujours? Bon, d'accord. Alors, ingérence russe et chinoise, dictature locale, tension intra-africaine, et maintenant...
Donald.
Eh oui. Ce soir, au pôle Bézignol à Priva, l'entrée est libre et c'est à 18h30.
Donald.
Non. Ah là là.
Désolé.
Un monde qui glisse, tout comme toi. Le collectif Citoyen pour le climat d'Aubenas revient pour une nouvelle édition des rencontres ciné-colo à partir de ce soir et jusqu'à samedi au cinéma Le Navire. Au programme, des films tout public, des débats, des rencontres avec des associations locales engagées et de la bonne humeur, puisque tant qu'à faire, mourons dans d'atroces souffrances, mais joyeusement, toutes et tous ensemble. Ce soir à 19h, c'est l'apéro d'ouverture et à 20h30, on commence le festival à proprement parler avec le film « À l'abri des activités humaines » de Gouar Greff. Une réflexion passionnante sur les forêts et le temps long qui sera suivie d'un débat sur la préservation des forêts. Et puis demain, ce sera autour du film « Le mal n'existe pas » avec un débat sur l'impact des projets touristiques sur notre environnement. En tout cas, vous retrouverez toute la programmation sur le site ou sur la page Facebook Citoyens pour le climat 07. Voilà, c'est à partir de ce soir et jusqu'à samedi. Un monde qui glisse, disais-je, qui patine et se casse la figure, oui. Le théâtre de Vals-les-Bains vient de nous informer que le spectacle Les Gros patine bien, initialement programmé ce vendredi et déplacé au mardi 7 janvier, suite à un souci de santé d'un comédien. Un monde qui glisse donc et qui se reconfigure. On l'espère en tout cas, comme Antoine Zeroudi, réalisateur, qui sera ce soir à La Passerelle, le bistrot culturel de la Blachère, pour débattre autour de son film documentaire Point de bascule. On l'avait reçu dans cette onde curieuse il y a quelques mois déjà, et il nous avait parlé d'initiatives enthousiasmantes de la part de personnes et de collectifs qui, à l'échelon national comme local, inventent d'autres manières de faire de la politique. Et je me rends bien compte que cette phrase, au lendemain de l'élection de
Donald,
est stratosphériquement décalée. Mais qu'importe, allez voir ce soir à La Passerelle, au bistrot culturel de la Blachère. Ouais, il faut se donner les moyens qu'on peut pour ne pas perdre espoir. Alors comment? En militant, en créant, en aimant, en allant au théâtre. J'ai bien d'autres solutions, mais je les garde peut-être pour une heure de moins grande écoute. Ce soir, toujours à 20h30 à la salle de la Grand Fonds à Joyeuse, Mais qu'a vu Suzanne B. C'est du théâtre et c'est mis en scène par Gilles Droulez avec les apprentis comédiens du groupe adulte. Suzanne B., témoin clé dans le meurtre d'un couple de sexagénaires. Une vie ne tient qu'à un fil, celle de l'accusé. Le témoignage de Suzanne B. est essentiel. Les jurés du procès sauront-ils dénouer l'affaire? Vous le saurez ce soir à 20h30 à la salle de la Grand Fonds à Joyeuse. L'entrée est à prix libre et les recettes seront reversées à l'association Un Rayon Social pour le Téléthon. Allez, une petite dernière, puisque j'ai parlé de Glissement des mondes et d'Alice au Pays des Merveilles aussi. Allez, on peut se faire un petit champi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Oui, un petit champi, grâce à l'association Payolive en toute sécurité, puisqu'l'association organise, comme chaque année, une sortie mycologique avec William Lhermeunier, expert S champignon, qui vous propose le temps d'une balade de plonger dans l'univers fascinant des espèces locales. Et ce sera ce dimanche à 10h. Rendez-vous demain devant la pharmacie de Saint-Paul-le-Jeune. Et puis il faut prévoir un pique-nique parce que ça va durer jusqu'à 17h. Voilà, quant à nous, on pousse aussi la porte d'un autre monde en musique avec ce morceau qui vous a inspiré tous les deux le titre de la nouvelle exposition, enfin l'une des trois nouvelles expositions du château de Benat, J'ai pleuré devant la fin d'un manga.
Ακόμα σου είπαρε από τη Δευτέρα. Πρώτη πάντα όλες οι νύχτες. Κουρασμένος με τις κοπέλες. J'ai jeté mon téléphone à l'eau. Attrapé par les griffes d'un oiseau, il a pris les nuages en photo, disparu au milieu d'un halo. J'ai pleuré devant la fin d'un manga. Pétait le chagrin soudé, Aïdé Maguin. Elle essayait de me joindre via réseau. Elle est tombée sur l'oiseau qui dit allô. J'avais tout misé sur ma peau. Tu m'as dit Jojo, vas-y piano.
C'était Joanne Papakonstantino avec Lundi, issu de l'EP Contre-jour. C'était en 2019 déjà. Et je ne sais pas si vous avez entendu, la phrase était sibylline, hein, comme dans le jeu sur RTL à l'époque où il fallait retrouver des mots dans une chanson avec des petits ding-ding. Et là, la phrase à extraire de ce morceau était bien « J'ai pleuré devant la fin d'un manga ». Puisque c'est le titre du deuxième chapitre de l'une des trois nouvelles expositions qui seront présentées au château à Aubenas à partir du 16 novembre, « J'ai pleuré devant la fin d'un manga ». Deuxième chapitre, puisqu'il y en a eu un précédent, un premier, présenté à l'école municipale des Beaux-Arts de Gennevilliers. Première en son genre au sein des institutions françaises, rien que ça, nous dit le communiqué de presse, le dossier de presse. Alors on va se demander pourquoi et en quoi c'est une première avec nos deux invités, Félicien Grand-Dénon, rebonjour Félicien.
Rebonjour.
Et Alexis Loisel-Montembeau.
Bonjour.
Alexis. Alors, première question, quelle était la commande de départ de cette exposition ?
Alors la commande de départ, on pourrait dire que c'était une discussion avec Lionel Balloin, qui était le directeur de l'école municipale des Beaux-Arts de Gennevilliers, qui est également un centre d'art contemporain, qui partait de l'observation que d'année en année, il recevait de plus en plus de dossiers de futurs étudiants de l'école, qui donc se préparent aux écoles de Beaux-Arts, avec une très forte inspiration manga, voire des portfolios faits uniquement d'illustrations manga. Et initialement, des dossiers qui étaient mis de côté, comme vu trop illustratifs, pas assez dans le champ de l'art contemporain, vu le phénomène que ça prenait, d'année en année, il s'est dit, il y a quelque chose de générationnel qu'on ne peut plus ignorer. Et donc ces dossiers ont été reconsidérés, et les futurs étudiants, étudiantes, pour certains, ont intégré l'école. Et donc Lionel Balloin se... en discutant avec lui et connaissant nos sensibilités, nous a invités à concevoir une exposition qui viendrait s'intéresser à l'influence des mangas dans les pratiques contemporaines du champ de l'art contemporain.
Parce que un des premiers constats qu'on a pu faire en travaillant sur cette exposition, et c'est pour ça qu'il y a cette phrase dans le communiqué de presse, c'est que la culture manga animée porte toujours un stigmate qui est présent depuis son apparition en France vers les années 80. Et le Club Dorothée, et la fin du Club Dorothée. Et ce stigmate porte aussi à le présenter comme un genre plutôt mineur dans la création culturelle, dans notre rapport empathique et intellectuel qu'on peut porter sur ce média, et qui donc finit par le reléguer à des expositions qui seraient plus de l'ordre de l'historique, ou de présenter des pages de manga comme étant seulement un objet de format de BD, de comique, et qui... jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, avec les recherches qu'on a menées avec Alexis, n'ont pas encore été intégrées dans les canons de l'art contemporain, en tout cas dans les centres d'art, dans les musées. Même si, historiquement, on a des artistes en France qui ont déjà travaillé avec ces esthétiques, et que nous, on pouvait voir évoluer de plus en plus avec des gens d'autres générations, qui, sans peut-être le représenter d'une manière littérale, esthétique, intégrer ces personnages de fiction comme... premièrement, une vraie influence esthétique et culturelle, mais également comme des sortes d'esprits qui habitent leur vie de tous les jours, leur rapport social, leur rapport de communauté. Et on voulait vraiment donner ces lettres de noblesse, d'une certaine manière, et ce qu'on essaie aussi un peu de faire au château, à une culture, un média qui a toute sa place, en fait, dans l'espace muséal ou l'espace du centre d'art.
Alors on va y revenir, j'entends dans ce que tu dis aussi une part donnée aux émotions, aux émotions que, aux nouvelles émotions peut-être que ça peut provoquer, ce type de création, ce type d'art. Mais avant, pour qu'on comprenne bien, donc il y a eu un premier chapitre, et là, donc, j'allais dire rebelote, mais non, pas rebelote, c'est un deuxième chapitre, avec quoi ? C'est des œuvres toutes différentes, il y a certaines œuvres qui ont déjà été présentées, ou en fait vous recréez un nouveau parcours, qu'est-ce que vous allez présenter au château ?
Alors, effectivement, on les a conçus comme deux chapitres distincts mais complémentaires, puisque de l'exposition que vous pourrez voir à Aubenas, au château, il y a seulement deux artistes qui étaient présents dans la première exposition, à Gennevilliers, premier chapitre. Mais les typologies d'espace étant extrêmement différentes, on était sur une typologie à Gennevilliers dite « white cube », donc vraiment un espace blanc, qui est celui classique attendu de l'art contemporain, alors qu'au château, il y a ces espaces incroyables, vraiment historiques, de charge de l'histoire aussi. Les espaces que vous prenez en exposition sont ceux en particulier des salons 18e, et également la partie médiévale, du donjon. Et donc effectivement, il fallait entièrement repenser une deuxième exposition, une autre itération, avec donc des nouvelles œuvres produites pour l'occasion, puisque les typologies d'espace, comment les artistes se sont appropriés ces lieux, cette histoire, fait que elles ont repensé et créé des œuvres qui ont été donc coproduites, financées pour certaines par le Centre d'art contemporain du château.
Ce sont toutes des créations ? Elles n'ont jamais été proposées ?
Alors c'est un mélange, il y a des œuvres qui sont effectivement empruntées, qui ne sont pas donc des nouvelles œuvres produites, mais on a dans l'exposition plusieurs coproductions avec le château d'Aubenas qui donc seront présentées pour la première fois au sein de cette exposition.
C'est ça, sur les 7 artistes de l'exposition, il y a 3 artistes qui ont conçu vraiment des nouvelles productions.
Donc c'est extrêmement excitant.
Bah, c'est très excitant, et surtout de les découvrir sur place pour la première fois lors du montage, c'est quelque chose d'assez fort.
Et il faut s'imaginer effectivement, en termes de médium d'œuvre, une très grande variété, puisqu'il y a à la fois des installations vidéo, des sculptures, des œuvres textiles, une œuvre en réalité virtuelle. Et donc il y a des œuvres qui ont dû être repensées, réadaptées. Elles étaient préexistantes, mais on peut dire que c'est une nouvelle version pour le château.
Ça, c'est d'ailleurs une dimension qui est assez intéressante. Donc vous êtes, j'allais dire un couple, un duo de commissaires. Vous avez déjà réalisé d'autres choses avant, et vous pointez le fait que ce qui est très important pour vous, c'est le multisensoriel, justement. Et en préparant cette émission, je suis tombée sur un extrait de complètement autre chose, mais qui m'intéresse. J'aimerais vous le faire entendre, justement, le multisensoriel comme avec un lien avec la porosité entre différents mondes. On écoute tout de suite Charles Stepanov, qui est anthropologue, notamment anthropologue des mondes sibériens, et qui décrit quand un chaman souhaite s'adresser à une montagne. Alors on l'écoute, il est au micro de Pierre-Edouard Deldic, c'était ce dimanche dans l'émission Idées de RFI.
Mais on ne s'adresse pas à une montagne comme on discute entre nous actuellement.
Bien sûr.
Il faut s'adapter. Donc il y a des adaptations, il y a de l'innovation communicationnelle. Donc il va y avoir, ça va être multisensoriel déjà. Il y a des fumigations, on fait brûler du genévrier, une plante odorante. On fait des libations, c'est-à-dire qu'on projette vers la montagne du lait, du thé. On peut jeter dans le feu de la nourriture, c'est gustatif aussi. On ne parle pas comme on parle habituellement, donc on chante, on a des rimes à travers les paroles. Ce sont des paroles très poétiques, très charnelles finalement, imagées. Donc on mobilise une communication à travers tous les sens, l'olfactif, auditif, tactile, gustatif, pour essayer d'établir un contact, il y a une adaptation.
Charles Stepanov, alors est-ce que par le multisensoriel, est-ce que c'est par ça qu'on entre en contact avec d'autres mondes ? Est-ce que ça vous parle?
Oui.
Alexis.
En tout cas, ça me parle effectivement beaucoup. C'est des discussions qu'on a en permanence avec Félicien pour repenser l'expérience que vont avoir les personnes qui vont rentrer dans les expositions, qui vont lire les textes, cette complémentarité, en tout cas tous ces petits paramètres qui ne sont pas forcément immédiatement perceptibles, mais il y en a qui sont plus inconscients et qui vont en tout cas créer un sentiment global ou des changements de sentiment au cours de l'exposition. Et effectivement, quand on parle de multisensorialité, comme c'était dit dans l'interview qu'on a entendu, il y a cette complémentarité. On attend effectivement peut-être, quand on va dans une exposition d'art contemporain, quelque chose de très visuel, principalement, et ça passe sûrement d'abord par là. Mais il y a également toutes ces petites choses qui vont faire qu'on va se mettre dans une ambiance, une atmosphère. Et il était clair, quand on a fait la première visite du château avec Victor Secrétan, le directeur du Centre d'art qui nous a invités pour faire l'exposition, qu'il y avait cette charge de l'histoire aussi du château de Benin. Quand on rentre dans les salons 18e, les parquets grincent, les voix résonnent, sont absorbées d'une certaine manière, on va rentrer dans la partie médiévale, il va d'un seul coup, il va y avoir un côté beaucoup plus minéral. Les changements de température des pièces, il y a une des tours qui sera la chambre de l'avatar Nantes de Pomerol, du mystérieux habitant du château, où il fait beaucoup plus chaud, on se sent beaucoup plus dans un cocon. Et donc tous ces petits paramètres, et également la partie d'odeur, qui ne sont encore une fois, c'est vrai que c'est des sens sur lesquels on a même moins de mots pour en parler, qui relèvent de choses extrêmement primales, très extrêmement anciennes, mais qui bien sûr catalysent toute la perception qu'on aura de cette expérience totale de l'exposition.
Et par cette question d'immersibilité, être capable d'habiter un lieu d'une manière qui n'est pas de l'ordre juste montrer des œuvres dans un espace, mais de trouver une synchronicité, permet aussi de projeter des émotions plus fortes en termes d'empathie, de connexion, afin de ne pas créer une distance entre les visiteuses et l'espace du château et l'exposition. Le but, c'est vraiment de se sentir plein en visitant l'exposition et d'accompagner cette expérience comme quelque chose de plus naturel, de plus immersif et de moins effrayant, ou peut-être parfois dans les expositions d'art contemporain un peu trop
conceptuel.
C'est ça.
Ouais.
Pour nous, c'est vraiment cette approche sensorielle permet une ouverture à partir du moment où on est touché d'un point de vue émotionnel. Et quand on dit émotionnel, ça ne veut pas forcément dire être quelque chose d'immédiatement plaisant ou beau. Parfois, ça passe justement par des zones plus floues, plus incertaines, ou voire d'inconfort, parfois. Qui crée une potentialité pour être plus apte à connecter des idées entre elles, à ce que finalement ça émerge des personnes qui visitent sa sensibilité, plutôt que d'avoir des textes ou des choses qui peuvent être trop explicites ou noyer les visiteuses dans trop d'informations.
Est-ce que c'est pas simplement revenir un petit peu quand même à la base de l'art, qui est quand même une expérience esthétique au sens très global, effectivement, qui met en mouvement tout ce qu'il y a de plus profond en nous, sans forcément passer par quelque chose de résonant. Je sais pas, Félicien.
Ouais, je trouve cette question intéressante, parce que j'ai toujours pensé l'espace muséal ou du centre d'art comme un espace hors du temps, un peu comme aller au cinéma. C'est les moments où je pense que tout le monde a des vies différentes, avec des problématiques différentes et des poids différents, et que des espaces, l'espace d'exposition, l'espace où on a accès à l'art, devrait être une sorte de petite poche, un monde à part entière, qui dans notre journée, dans notre semaine, est une respiration. Et je pense que c'est aussi une manière dont on a pensé l'exposition, c'est de le penser comme une respiration en dehors du temps et en découvrant de nouveaux mondes, et qui nous permet d'une certaine manière de nous échapper pendant un court instant, un court moment, mais de se donner le droit d'avoir des expériences sans se poser de questions, sans être trop connecté à l'hyperinformation, comme aujourd'hui où on est tout le temps très connecté, et on espère vraiment, en tout cas avec l'exposition avec Alexis, que ça permette d'avoir cette parenthèse émotionnelle, empathique, intellectuelle, qui n'est peut-être pas obligatoirement de l'ordre d'apprécier, mais de vivre quelque chose.
Alors, vous dites, ouais, un moment comme suspendu, déconnecté, et en même temps, c'est ce que vous présentez, enfin, ce que, oui, les œuvres que vous allez présenter sont complètement, enfin, hyper contemporaines, hyper dans l'immédiateté, enfin, c'est, alors, comment on instaure un moment hors du temps avec du super contemporain?
Eh bien ça, effectivement, c'était un des enjeux, des questions qu'on se posait quand on concevait l'exposition, puisque, comme tu l'as dit, les artistes qu'on a invités, donc les 7 artistes, sont nés entre 1980 et 1991, et donc c'est des œuvres qui sont hyper contemporaines, les plus anciennes ont 10 ans, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des œuvres qui ont été terminées, qui sont en train d'être terminées. Et les équipes sont en train de travailler dessus, vraiment, avec un travail collectif incroyable pour faire naître ce projet. Et donc ça va jouer vraiment sur cette ambiguïté temporelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on conçoit des œuvres et hyper contemporaines dans un environnement qui est déjà très chargé d'histoire et donc qui est porteur d'un imaginaire, déjà lui-même, on va. Et c'est ce jeu de l'exposition, j'ai pleuré devant la fin d'un manga, c'est vraiment cette ambiguïté temporelle, ce décalage concret, petit à petit, de salle en salle, qui sont comme rentrés dans différents mondes, capsules, et qui font aussi qu'il y a sûrement des flous dans les émotions ressenties, petit à petit, entre le mignon, le kawaii, mot japonais, et la forme d'étrangeté qui peut émerger, qui fait aussi écho au passage du temps, puisque finalement, c'est des personnages avec lesquels on grandit, qui viennent soit des mangas, soit des contes populaires, ou de fables, avec des chimères magiques, et qui, nous ont vieilli, et eux, non. Et l'exposition est aussi c'est le rapport empathique concret avec ces personnages et c'est ce qu'on dit des fictions qui, en fait, à partir du moment où on se projette dans ces mondes, on fait naître des nouvelles idées, on s'autorise, c'est une nouvelle manière, à exister ou à projeter des désirs. Petit à petit, avec une sorte d'effet papillon, on essaye de mettre en place dans nos vies, finalement, cette porosité entre la fiction et le réel.
Ouais, dit le réel, parce que finalement, la fiction, elle ensemence le réel tout le temps.
C'est une expérience totale.
Qu'est-ce que le manga, pour vous, spécifiquement, apporte? Qu'est-ce qu'il crée, alors peut-être pour vous personnellement, je sais pas, qu'est-ce qu'il crée comme on parlait d'émotions ou au-delà même des émotions, qu'est-ce qui crée en vous le manga?
Alors c'est une question
très... Vous avez 5 heures. Sylvain, tu avais prévu d'aller manger?
c'est une question très profonde et je pense un des constats des deux chapitres de l'exposition, c'est la puissance de la pop culture et de la fiction qui sont souvent vus comme des éléments issus de culture commerciale ou mondialisée, et qu'on sous-estime la capacité d'adaptation de ces cultures et de ces médias-là. C'est-à-dire qu'un manga peut résonner avec moi, alors que je ne suis pas japonais, je ne suis pas né dans la culture japonaise, et pourtant, je peux l'adapter à des situations de vie qui sont les miennes, des émotions que je vais retrouver en miroir avec des gens que je côtoie. Et à travers ce média, m'ouvrir, parfois peut-être me donner des clés de compréhension ou de manière subconsciente, me faire comprendre d'autres choses. Donc bien sûr que j'ai une appréciation, en tout cas personnellement, de l'ordre de l'esthétique, de l'histoire, enfin d'une fiction comme lire un bon livre, un bon roman, mais il y a aussi quelque chose qui va connecter profondément en nous. En tout cas, je pense que pour notre génération, Alexis pourra parler, on a grandi avec Tamagotchi, avec des objets issus de cette culture qui sont une sorte de petits animaux qu'on va élever dans des petites montres électroniques et auxquelles on va projeter des émotions, on va être triste quand ces personnages meurent, on va être triste, on va être content quand ces personnages grandissent, quand ils sont heureux. Et il y a quelque chose de, même si cette culture, et ça je pense qu'on parle pour toute la fiction, mais spécifiquement pour le manga, même si ça peut paraître étranger, même si c'est une esthétique différente, il y a une telle force pour s'introduire dans nos cadres de vie, qu'ils soient de communauté, personnelle, culturelle. Par exemple, dans le premier chapitre, on avait une artiste qui, en lisant un manga, avait tellement connecté émotionnellement avec cette œuvre que c'était devenu une sorte de figure tutélaire de son rapport familial et émotionnel. Et c'est pour ça, le manga résonne comme ça, en tout cas pour moi, comme des œuvres qui, sous plein de formes différentes, vont se lier à ma mémoire personnelle, à mon expérience intime.
Mais tu le disais un petit peu, c'est un peu le propre de toutes les fictions. Je veux dire, si on relit aujourd'hui, je dis n'importe quoi, si on relit Madame Bovary, par exemple, et qu'on le relit encore aujourd'hui, je ne vis pas au 19e siècle, je ne suis pas... Ou toi, peut-être, tu n'es pas une femme, tu ne vis pas au 19e siècle, tu ne rencontres pas ces problèmes, et pourtant... Mmh. Ou alors, si on lit Proust, on se dit « Oh mon Dieu, c'est incroyable !» Et pourtant, on est là. Donc cette capacité... Et juste, tu parlais de Tamagotchi. En fait, ce qui est quand même assez incroyable dans cette culture japonaise, je viens d'apprendre qu'il y avait des petites pierres maintenant. C'est même plus des Tamagotchi qui bipent quand il faut les sortir ou prendre soin d'eux. Ce sont des pierres avec des yeux, et ces yeux qui nous regardent. Et en fait, les gens achètent ces pierres pour prendre soin de ces pierres. C'est incroyable. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable dans notre capacité à projeter sur l'autre, dans l'autre, c'est vraiment l'empathie dont tu parles, des émotions, et donc de se sentir responsable de ces personnes. Je digresse, mais Alexis, peut-être tu veux...
Non, mais peut-être pour ce que tu disais par rapport à Madame Bovary, on est dans une temporalité qui n'est plus la nôtre, mais en tout cas qui nous... Peut-être qu'il confirme dans l'idée que on a une vision en Occident, une vision très linéaire du temps, et typiquement construire des histoires, ça fait partie de ces choses où on arrive dans une vision beaucoup plus non linéaire, cyclique finalement, et qui est aussi le reflet de l'époque dans laquelle on vit, où on est en permanence sollicité par différents médiums, par différentes communautés entre le monde dit physique et plus numérique, et qui viennent brouiller nos perceptions. Et c'est des visions du monde qui résonnent avec, par exemple, dans l'exposition, l'artiste Tianzhou Chen, qui est chinois, et qui va, lui, dans ses œuvres, intégrer des éléments de la culture bouddhiste, avec cette idée du troisième œil qui donne accès à un autre monde. Et cette vision cyclique du temps est extrêmement présente. Et c'est peut-être un des liens entre créer des fictions, créer des personnages et un rapport presque spirituel à partir du moment où on crée des communautés qui nous relient entre des individus, et qu'il y a un rapport qui est presque de l'ordre de la croyance, qui se crée peu à peu. On peut faire un de ces parallèles, par exemple, sur ce don d'ubiquité entre les personnages et les nouvelles technologies. Et le divin dans des formes de spiritualité, et qui font qu'on s'entremêle des choses qui font écho à l'histoire de l'humanité, et des choses qui peuvent être vues comme très classiques, comme la pop culture.
Ouais. Des temporalités, des espaces qui s'entrechoquent et qui s'entremêlent. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, Alexis et Félicien, d'être venu sur ce plateau. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle donc cette exposition à aller voir. Elle se sera à partir du 16 novembre au château d'Aubenas. C'est J'ai pleuré devant la fin d'un manga. Il y aura deux autres expositions également, celle de Vanessa Winship, Une route sans fin, expo de photos, et puis Il mer froid dans une rouge clairière, c'est une exposition créée par Victor Secrétan. Et à noter qu'il y a plusieurs œuvres qui ont été réalisées par les artistes sur le territoire dans le cadre du projet Sur le sentier des Lauzes à Saint-Mélanie. Voilà, donc tout ça à partir du 16 novembre. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de Fréquence 7 parce qu'il y a la meilleure de la musique, bien sûr. Et puis aussi à 15h, le Telex, c'est-à-dire vos messages que vous nous laissez au 04 75 93 30 25. À 17h, c'est la rediffusion de cette onde curieuse. Et à 19h, c'est Éclectrique. Voilà, bisous. Nous, on se retrouve demain pour du cinéma et lundi, mais oui, lundi, c'est le 11 novembre. Il ne devait pas y avoir d'onde curieuse, mais il y aura une onde curieuse, et une onde curieuse très étonnante, puisque là aussi, on va embrasser d'autres mondes. On sera avec des participants de l'écho de la Réhab de l'hôpital Sainte-Marie, hôpital de jour de Privas. Voilà, et ben d'ici là, portez-vous bien. Ciao.